Panorama Économique.
Vous êtes les bienvenus, messieurs, dames, à ce nouveau numéro de Panorama Économique sur Radio Okapi. Les titres, avant de commencer, le gouvernement continue à lutter pour obtenir la baisse du prix des produits de grande consommation dans le pays. Les ministres des Finances, Budget et Économie autour du Premier ministre ont réfléchi lundi sur la question comment intégrer dans le meilleur délai les entrepreneurs congolais dans le commerce des produits de première nécessité. La cimenterie de Lukala peut importer du ciment pour suppléer le déficit de la production locale et répondre ainsi aux besoins de sa clientèle. Le groupe des actionnaires de la Silou l'ont annoncé au cours d'un point de presse ce mardi à Kinshasa. Annonce faite après un entretien avec le vice-premier ministre et ministre du Budget. Exploitation artisanale et illicite de l'or en territoire de Nyunzu dans le nord Katanga. Si la traçabilité du coltan est en vigueur dans ce coin depuis quelques années, par contre, la confusion règne en ce qui concerne le métal jaune, l'or donc, dont on ne connaît toujours pas les statistiques. Reportage de Expedit Mwamba Mubi à suivre dans votre magazine. Notre invité cette semaine pour des analyses et commentaires s'appelle Atigo Lofimbo. Il est secrétaire général de l'Union nationale des paysans du Congo. Il est aussi député national élu de Kailo dans le Maniema. Honorable député, bienvenue à Panorama Économique.
Merci.
Et devant ce micro, pour vous retracer la rétrospective de l'actualité économique de la semaine, Berry Franklin Luchaka, à qui je dis bonjour.
Bonjour Daniel, bonjour à tous.
Et devant vous, votre humble serviteur, Daniel Tampinzoni, comme tous les week-ends, je vous salue et vous souhaite la bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi.
Panorama économique, le dossier.
Comment intégrer dans le meilleur délai les entrepreneurs congolais qui ont de l'expérience dans le commerce de produits de première nécessité, essentiellement les produits alimentaires, Berry?
Cette question était inscrite lundi au menu de la réunion de la Troïka stratégique à la primature. Le vice-premier ministre et ministre du Budget parlent des avancées dans les démarches du gouvernement. Daniel Mukoko Samba.
Aujourd'hui, nous avons essentiellement parlé de cette question de l'émergence de l'entrepreneuriat national. Comme nous l'avions souligné lundi de la semaine dernière, nous aimerions vraiment et nous faisons tout pour que dans les meilleurs délais possibles, les entrepreneurs congolais qui ont de l'expérience dans le commerce des produits de première nécessité, essentiellement les produits alimentaires, que le gouvernement puisse leur apporter tout le soutien nécessaire afin qu'ils reviennent dans ce secteur. Donc aujourd'hui, je pense que nous avons un plan plus ou moins clair de ce que le gouvernement va faire afin que ces entrepreneurs congolais puissent participer notamment à l'approvisionnement du pays en ces produits alimentaires de première nécessité pendant que nous préparons le dernier trimestre de l'année, de manière à ce que les festivités se passent dans les meilleures conditions. Cette mesure n'est pas liée aux anticipations que nous avons par rapport aux festivités de fin d'année. Cette mesure consiste à modifier de manière sensible le système économique dans notre pays. Parce que il faut se rendre à l'évidence que nous sommes un pays où le coût de la vie est très élevé, alors que les revenus ne sont pas très élevés. C'est cette contradiction qu'il faut résoudre. Et le paquet de mesures qui ressort donc de conclusions, des négociations que le gouvernement a eues avec les opérateurs économiques, contribue à résoudre cette contradiction.
Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas normal que les Congolais eux aussi soient dans ce secteur aussi important de la vie économique du pays, le secteur alimentaire? Et nous, c'est la question que nous allons poser à la première question, notamment à notre invité, l'honorable Atigo Lofimbo, mais il ne vient pas ici parler la politique, il parle au nom des paysans dont il défend le droit. Honorable, on veut approvisionner le pays et obtenir également la baisse du prix de ces denrées, parce qu'on vit dans un pays où les prix sont très élevés alors que les revenus ne suivent pas.
Merci de la question. Nous sommes en train de remercier et de féliciter le gouvernement pour la reprise de conscience de l'engagement qu'ils sont en train de prendre, parce que depuis très longtemps, beaucoup de gouvernements que nous avons vus passer, on ignorait un peu cet aspect de manger de la population. C'est pas quand même normal dans un pays, le gouvernement ne se préoccupe pas de la situation alimentaire de sa population. Si aujourd'hui ce gouvernement doit prendre conscience de l'émergence de l'entrepreneuriat national, c'est vraiment une bonne chose. Nous encourageons ce gouvernement parce que depuis très longtemps, il n'y a que quelqu'un comme Lédia qui recevait des subventions de l'État, alors que nous avons des grandes familles telles que le grand magasin ici sur le boulevard
Pelustor. Oui.
Mais c'est une famille qui a démontré, les enfants qui ont démontré un exemple au pays. Mais ils sont là sans subvention. Est-ce que vous avez déjà vu comment leur papa est décédé? Vous avez déjà vu une famille dont les enfants
sont restés soudés
et continuer à faire aller au-delà même des aspirations de leur papa? Mm-hmm. Est-ce qu'il fallait laisser cette
famille comme ça? C'est des cas exceptionnels.
Vraiment. C'est là que le gouvernement devait intervenir. Quand vous voyez quelqu'un qui a commencé avec de faibles commencements, mais il prospère, donc il fallait que les subventions puissent en suivre. Il ne fallait pas se laisser l'aider seul. Lui, il ne pouvait pas supporter toute la population congolaise. Il faut aller de province à province, partout là-bas. Non seulement qu'il faut subventionner les expatriés, mais aussi les nationaux.
Le marché, le secteur de l'alimentaire en RDC est dominé par des expatriés et le gouvernement veut intégrer des Congolais dans ce secteur, leur accorder des facilités. Comment vous jugez cela? Est-ce qu'il ne faut pas accorder ces facilités à ces expatriés tout simplement? Quel sera l'apport des Congolais dans ce secteur selon ce que le gouvernement pense?
Les jours
pense?
Que les expatriés partiront.
Mais ils ne partiront pas, ils ont trouvé la terre fertile.
Mais nous sommes au Congo, il faut aussi favoriser ce que les Congolais émergent. Ce qui est important, on ne peut pas continuer. D'abord, du fait que nous félicitons d'une part, mais de l'autre part nous condamnons. Condamner pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas continuellement rester extraverti, c'est-à-dire notre économie qui reste extraverti, ce qui n'est pas normal. Le gouvernement doit fournir un effort maintenant pour chercher comment introvertir notre économie. C'est vrai, bon, c'est un gouvernement qui vient d'entrer, qui se recherche encore, donc la première stratégie pour donner à
marcher. Mais ça, c'est vous qui le comprenez ainsi, le Congolais, pour le Congolais, c'est pas parce qu'il y a un gouvernement qui vient de commencer, pour lui, il est né, il a 10 ans, il a 15 ans, 30 ans, 50 ans, en RDC, la situation ne change toujours pas, c'est pas question, ça ne dépendra pas pour un Congolais d'un gouvernement qui vient de commencer.
Nous félicitons le fait de prendre une décision de chercher comment faire émerger l'entrepreneuriat national, mm-hmm. comment lutter à la baisse des prix, mm-hmm. c'est bien, mais nous disons au gouvernement, cela ne suffit pas. Ce qui est comme solution durable et salutaire pour la population congolaise, c'est de chercher comment produire plus localement, d'encourager la production locale. Nous avons un sol très riche, nous les paysans, nous les défendeurs des paysans, nous sommes là, nous connaissons la potentialité de notre...
Et nous sommes en début de l'année culturelle.
Voilà, c'est pourquoi nous sommes en train d'encourager le gouvernement. Quand bien même ils ont financé la production, maintenant il faut aussi chercher à financer davantage.
Ils veulent soutenir les importations, mais peut-être vous leur demandez de mettre aussi le paquet pour la production locale.
Non seulement pour la production, il faut maintenant investir aussi sérieusement dans la période post-récolte. Parce que nous produisons, on a financé beaucoup de choses pour la production. On va produire en grande quantité. Mais comment évacuer, comment conserver, comment transformer, c'est encore un problème.
Les routes et les dessertes agricoles posent aussi problème.
Tout ça. Mais aujourd'hui, nous aurons, d'ici là, 2 mois, 3 mois, nous aurons déjà une production si importante. Mais cette production, comment elle doit profiter à tout le monde? Nous vous informons qu'avec l'Union européenne, on a fait des recherches, on a découvert que dans ce que nous produisons localement, il y a 30% seulement qui servent ou qui servent aux besoins de la population, et c'est 70% s'évaporisent comme ça, à sa part, que nous perdons.
Faute de structure de conservation,
voilà,
structure de transformation.
Non, technologie de conservation et technologie de transformation. On ne donne pas la valeur ajoutée à ce que nous produisons, ce qui n'est pas normal.
Nous vous gardons, monsieur Atigo, le temps de prendre ce deuxième dossier de la semaine. La cimenterie de Lukala peut enfin importer du ciment pour répondre aux besoins de sa clientèle.
Alors, l'insuffisance de la production locale a poussé le groupe des actionnaires de la Silou à prendre langue avec le gouvernement. Et à l'issue de ces pourparlers et au cours d'un point de presse mardi à Kinshasa, les actionnaires de la cimenterie de Lukala ont obtenu du ministre du budget l'autorisation d'importer du ciment gris. Daniel Gauthier du groupe belge Edelberg, l'un des actionnaires de Silou, a ajouté que l'objectif est d'atteindre une production de plus de 900 000 tonnes par an. Il le dit au micro de Paul Matenou.
Notre souci, c'est de mettre maintenant à disposition nos moyens aussi d'importation pour le gouvernement en toute transparence pour qu'on soit sûr de la qualité du ciment, soit sûr des sources d'approvisionnement et de la structure de coûts. et qu'on puisse avoir une stabilité des prix dans le marché du Congo, ce qui va nous aider à nous à décider des investissements d'augmentation de capacité, pour lequel nous sommes venus aussi informer le vice-premier ministre et le ministre de l'économie pour leur dire que nous avions maintenant nos solutions techniques et que nous étions dans le processus de décision pour augmenter la capacité de 400 000 à 1 million de tonnes sur notre site de Silou. Et évidemment, le gouvernement est très heureux de notre position et nous a assuré une collaboration complète, y compris sur les défauts de marché que nous avons connus dans le passé, c'est-à-dire qu'effectivement, les prix d'importation étaient plus bas que la production locale et maintenant nous avons une situation fair, correcte au niveau des taxes, au niveau de la TVA et donc tout ce que nous demandons c'est un meilleur contrôle, meilleure transparence, que le gouvernement pilote effectivement cette planification d'importation et nous serons prêts à faire jouer un rôle important pour assurer que le marché soit servi.
Le ciment, encore du ciment, se fait parler de lui, ce produit très stratégique et puis finalement la Silou, la seule qui produisait encore, obtient d'importer pour combler le déficit de la production locale, ce qui a vraiment un problème.
Bon, le ciment, c'est parmi les biens de première nécessité. Mm-hmm. Nous parlons de la modernité ou des révolutions de la modernité. Le ciment doit contribuer à cela. On fait des routes, on doit construire aujourd'hui. Est-ce que vous savez, dans le temps, Mobutu n'acceptait pas qu'on construise des grands immeubles.
Pourquoi ?
On ne savait pas. Est-ce que c'est parce que lui-même ne voulait pas construire ou quoi ? On ne sait pas. Mais avec l'actuel président, lui a laissé cette possibilité à tout Congolais de construire. Et voilà, vous avez vu.
N'est-ce pas
comment...
peut-être l'essor de la technologie qui fait à ce qu'on ne sait plus construire.
Non, la technologie existait
depuis très longtemps. Horizontalement, on construit.
Depuis très longtemps, la technologie était là, mais Mobutu ne voulait pas que les gens construisent des grands immeubles.
Bon, ça, c'est vous qui le dites.
Alors, ouais. Comme nous sommes en train de voir notre vie et notre ville, le Kinshasa et partout ailleurs, en train de rayonner et tout ça, vous comprenez déjà que le ciment est très important. Donc, nous félicitons encore davantage le gouvernement Matata qui
encore
est à l'écoute.
Encore, on ouvre les yeux vers l'extérieur pour combler le besoin
j'en
local.
Arrive.
Alors que la CINAT, ça fait des années qu'elle ne produit plus.
Je vais arriver à ça. Donc, c'est comme le premier sujet. Je félicite, je remercie pour l'écoute attentive que le gouvernement est en train d'accorder à certains opérateurs économiques pour résoudre le problème des carences des produits dans le pays. Mais je rentre encore dans le camp qui est le mien, de défendre la production locale. Le gouvernement ne peut pas toujours s'adonner à trouver des solutions extraverties. Nous devons, comme nous avons la potentialité des potentiels, le gisement est tellement riche, pourquoi ne pas donner des subventions pour que la production locale puisse, c'est-à-dire rendre capable à Silou et Sinat de produire localement ici. Parce que les coûts des transports, tout ce qu'il faut là...
C'est beaucoup.
C'est beaucoup quand même. Nous pouvons produire localement, ça va coûter moins cher, ça va aider le pays rapidement. Et même le temps, parce que la production aussi se fait localement ici. Le temps que nous devons attendre que ça puisse quitter l'Asie ou l'Europe pour que ça nous rejoigne. Tout ça, ça entre dans la ligne. Mm-hmm. Alors, pourquoi ne pas encourager seulement la production locale ? Encourager la
production locale. Il y a un projet en souffrance depuis très longtemps, le projet de la construction de la cimenterie de la province orientale. On ne sait pas ce que les matériels sont devenus aujourd'hui, on ne sait pas ce que le projet lui-même est devenu. Bon, c'est voilà. Ça la RDC. Le temps de prendre, de nous rendre en province orientale justement pour revenir sur ce bras de fer entre le Fonds national d'entretien routier, le FONER, et le gouvernement provincial.
Le directeur provincial du FONER a révoqué depuis septembre dernier tous les chefs de poste de péage route et leurs adjoints pour malversation financière. Prérogative que le ministre provincial chargé des infrastructures ne reconnaît pas au directeur provincial du FONER. Pour lui, seul le gouvernement provincial peut révoquer ses personnels. Le FONER, lui, refuse tout accès à ses postes de péage. C'est un reportage de José Deschartes Menga.
Le directeur provincial du FONER a adressé une lettre aux 14 chefs de postes de péage et leurs adjoints, leurs initiants, leurs limogeages. Il justifie sa décision par ce qu'il qualifie de détournement à grande échelle de deniers publics dont il les accuse. Rock Biba.
L'exécutif national, l'exécutif provincial, la FEC, les usagers de la route, et même nous, à l'interne FONER, on a constaté le détournement des deniers publics.
Le gouvernement provincial ne reconnaît pas au FONER la prérogative de mettre fin aux activités de chef de poste de péage. Georges Weber Batochingane, ministre provincial des infrastructures et travaux publics en séjour à Bounia.
Les agents de péage ne sont pas des agents de FONER. Ce sont des agents qui sont membres de la coordination provinciale du péage. C'est mis en place par le gouverneur de province sortant. Nous pourrons éventuellement changer de personne zone et prend des sanctions. Mais à ce jour, la structure reste en place.
Malgré la décision du ministre, le directeur provincial du Foner s'entête. Pas question d'autoriser les chefs de poste de travail au poste de péage. Roch Biba.
Ils ne peuvent pas accéder. La décision des Foner reste telle que ça ne change pas.
Face à cet entêtement, le ministre Batoua Tchengane Essek.
Ils l'ont fait de manière tout à fait illégale, sans respect aux procédures ni aux institutions. Ils vont y laisser leur peau. Et pour ça, nous serons intraitables, je vous assure.
Bounia, José Deschartemenga, Radio Okapi.
On assiste là à un jeu de ping-pong entre le responsable du Foner et le ministre provincial. Tout de suite, il me vient à l'esprit un conflit de compétences entre les deux. D'un côté, on dirait que le ministre provincial est en train de soutenir ceux qui ont dilapidé le denier public.
Voilà les grands problèmes de réformes institutionnelles que le pays est en train de connaître, avec surtout des réformes sur la décentralisation. Il y a encore un sérieux problème, nous sommes en train de demander aux concertateurs, malheureusement ils sont arrivés à la fin. Ce sont des grands dossiers qu'il fallait chercher à résoudre, parce qu'il y a un conflit des compétences qui continue à se poser. Les gouverneurs qui se comportent avec leurs ministres provinciaux comme des petits roitelets, il y a certaines compétences qui reviennent juste au niveau du niveau central, mais qui sont empiétées par le gouverneur ou les ministres provinciaux. Bon, ici c'est question de partager qui a nommé ces gens, et même si telle structure avait nommé ces gens, est-ce qu'il était de sa compétence de le faire? Bon, tout ce que nous demandons, ils sont tous de l'État, c'est question de voir lorsqu'il y a un fait de malversation qui est avéré. Donc c'est question que le ministre puisse comprendre. D'abord on met de côté ceux qui se sont comportés inciviquement et voir comment on peut résoudre
ça. Je pense qu'il faut d'abord punir la faute.
Mais c'est ça.
Et chercher entre responsables à résoudre calmement le problème que de voir d'un côté le ministre provincial et de l'autre le directeur provincial du Foner et puis ça fait cacophonie. Et nous allons terminer cette première partie de Panorama économique par le rapport de la Cour des comptes européenne sur l'aide de l'Union européenne à la RDC. Ce rapport qui relève que l'Union européenne n'a pas atteint les résultats pour lesquels l'argent a été décaissé en faveur de la RDC.
L'agence belga parle d'environ 1,9 milliard d'euros, tandis que le rapport de la Cour des comptes avance un montant de 1,9 million d'euros. Écho d'économie a reçu ce jeudi l'ambassadeur de l'Union européenne pour plus d'amples précisions sur cette affaire. Jean-Michel Dumont est interrogé par Mireille Boukassa.
C'est exactement combien d'argent que la Cour des comptes européenne estime que la RDC a mal géré?
La Cour des comptes ne dit pas que la République démocratique du Congo a mal géré l'argent. Elle dit que 1,968 milliards d'euros ont été dépensés pour les programmes de coopération avec la République démocratique du Congo depuis la reprise de la coopération en 2002. Et que les programmes auraient pu être mieux gérés. Et donc, les programmes n'ont pas répondu aux espérances.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Il se passe qu'on avait formulé des objectifs très ambitieux et que tout n'a pas fonctionné parfaitement. C'est par exemple celui sur l'aviation civile. Nous avons mis un programme de 5 millions d'euros à la disposition de la République démocratique du Congo et il fallait pour cela que la législation soit modifiée et que l'autorité de l'aviation civile congolaise soit réformée. Cela n'a pas été fait et donc le programme n'a pas pu aboutir et la République démocratique du Congo a perdu le bénéfice de 5 millions d'euros.
Et où est passé l'argent?
L'argent, il est retourné aux contribuables européens puisqu'il ne pouvait pas être utilisé ici.
Et dites-nous, une fois en RDC, ces fonds de l'Union européenne sont gérés par qui?
Alors, les fonds de l'Union européenne sont gérés par le ministre des Finances. C'est lui
le ministre congolais?
Congolais, oui. Et c'est lui qui, à travers la COFED passe les appels d'offres et donc mène toute la procédure que nous endossons.
Honorable, le gouvernement de la RDC qui n'a pas pu, par exemple, absorber les 5 millions d'euros qui étaient déployés pour la réforme de l'aviation civile congolaise.
Bon, c'est un peu déplorable que nous soyons là en train d'être critiqués régulièrement des années, que nous n'avons pas de capacité d'absorption. Nous sommes en train de regretter cet état des choses. Nous demandons au gouvernement de fournir cet effort. Bon, le grand problème, c'est que un gouvernement est géré à travers un programme, lequel programme, pour être vraiment mis en œuvre, il faut que le ministre ait la capacité d'initier des projets. Parce qu'un programme, c'est un ensemble de projets. Donc, chaque fois qu'on doit nommer un gouvernement, on doit...
C'est un aspect passer... à prendre en compte.
Oui, on doit passer par la remise à niveau de tous les ministres. Ils sont tous des intellectuels, des licenciés, des docteurs, en ceci, cela, mais tout le monde n'a pas de notion sur le projet, le programme, tout ce qu'il faut là. Alors, chaque fois qu'on doit nommer, investir un gouvernement, il faut qu'on passe par là, afin que tout le monde parle le même langage. Le langage du gouvernement, c'est le langage des projets, c'est le langage du programme. Ça, nous avons demandé à maintes reprises de former les ministres en cela. Même l'argent des PTTE, la première année quand cela est sorti, on nous a dit que nous n'avons pas consommé 25% de cet argent-là. Alors que nous avons beaucoup de problèmes d'ordre socio-économique.
À tous les niveaux.
À tous les niveaux. Dans tous les secteurs, nous avons des sérieux problèmes. Est-ce pour faire un projet de construire une école ou pour construire un hôpital qui est difficile? Non. Mais il y a aussi des gens qui initient des projets, les particuliers comme nous. Nous introduisons des projets qui ne sont pas consommés, qui ne sont pas pris en compte. Mais finalement, pourquoi on doit continuer à vivre comme cela? L'argent maintenant 5 millions est rentré. Est-ce qu'on n'a pas besoin de 5 millions? J'avais même signalé...
Alors que les compagnies congolaises ne peuvent pas aller dans l'espace Union européenne.
Voilà.
Et cet argent devrait quand même servir à assainir le secteur de l'aviation congolaise.
J'avais signalé à l'époque, j'étais encore à DGA de l'Office des routes, quand j'avais appris, j'avais un ami qui était chargé des infrastructures à l'Union européenne, c'était un portugais qui m'avait signalé de 5 millions. J'allais voir Madame ministre Laure, qui était à l'époque ministre des Transports, qui fait tout pour consommer cet argent, c'est-à-dire il y a un projet de relancer l'aviation civile. Ok. Ouais.
Et puis finalement,
moi,
ça n'a
je
donné.
Suis parti, voilà. Comment ça a été. Et voilà, aujourd'hui, on me dit que cet argent est rentré. Depuis 2009, comme ça, 2010, jusqu'à aujourd'hui. C'est regrettable.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Panorama économique sur Radio Okapi, les autres informations de la semaine en bref. L'archevêque de Kilwa Kasenga dénonce l'exploitation abusive et frauduleuse des bois dans le territoire de Kasenga par des Chinois. Cette situation a refait surface, selon lui, depuis bientôt 2 semaines. Monseigneur Fulgence Muteba estime que cette situation détruit la biodiversité, entraîne le manque à gagner. Ainsi, il invite les autorités de la province à prendre des mesures qui s'imposent pour arrêter cette destruction de l'environnement.
Kinshasa a abrité de mardi à vendredi la 9e Assemblée Générale de l'Union des Conseils des Chargeurs Africains, UCCA en sigle. L'UCCA est une structure africaine qui regroupe et défend les intérêts des organismes ayant dans leurs attributions le transport des fret maritimes. C'est dans ce sens que l'OGEFREM de la RDC est compté parmi ces institutions. Parmi les enjeux de la réunion de Kinshasa, l'élection d'un nouveau secrétaire général de l'UCCA. La présidence de cette institution est désormais assurée par la RDC par l'entremise de l'OGEFREM pour 4 ans. La nouvelle équipe aura pour mission de faire face aux multiples problématiques qui s'imposent à l'Union.
La coordination de syndicats de services d'assiette COSA en sigle a tenu ce mardi son assemblée générale à Kinshasa. Cette structure qui regroupe plus de 50 services de l'État dit lutter pour la maximisation mais surtout la sécurisation des recettes qui doivent aller au trésor public. Le coordonnateur de la COSA a expliqué que beaucoup d'argent sont souvent mobilisés mais n'entrent pas totalement dans la caisse de l'État. C'est pourquoi le syndicat veut mobiliser encore davantage et non seulement mobiliser mais aussi sécuriser les recettes.
Matière première.
Le territoire de Niouzou dans le nord Katanga est réputé pour ses nombreuses carrières d'exploitation artisanale de coltan et aussi de l'or, vous le savez peut-être. Si la traçabilité du coltan est en vigueur depuis quelques années, dans ce coin par contre, la confusion règne en ce qui concerne le métal jaune, c'est-à-dire l'or, dont on ne connaît toujours pas des statistiques, d'où l'exploitation illicite qui bat son plein. C'est ce que nous dit Expedit Mwamba Mubi dans ce reportage.
Les autorités de Niuzhou sont catégoriques. Il n'existe pas à ce jour de statistiques au sujet de l'exploitation artisanale de l'or dans ce territoire. Pourtant, on dénombre une dizaine de carrières d'où est extrait le métal jaune depuis quelques années. La plus récente des carrières est celle de Moussoï. Celle-ci est en passe de damer le pion à la carrière de Moussébé, réputée il n'y a pas très longtemps comme la plus riche. Mais toujours pas de statistiques. Les autorités elles-mêmes reconnaissent un manque de traçabilité. Toutefois, elles affirment avoir encouragé la création d'une coopérative en vue d'un meilleur contrôle de la production, comme l'explique l'administrateur de territoire Boulaboula Sango.
Cette coopérative doit organiser un centre de négoce où tous les négociants doivent être bien identifiés et des quantités bien quantifiées, et nous aurons à connaître le comptoir agréé le plus proche. Nous avons fait cet exercice au niveau de Moussoï, mais là ça reste le cas de Moussébé.
Avec près de 30 000 creuseurs artisanaux, Moussébé est devenu depuis plus d'une année le nouvel Eldorado. Faute de statistiques de la production, beaucoup se lancent dans des conjectures. C'est le cas de ce chef de groupement.
Cette carrière de Moussébé, vous savez que sur Internet, quand j'ai vu ça hier la nuit, ça a déjà fourni dans ce laps du temps au moins deux filles d'or qui se trouvent déjà au niveau de Rwanda. Ça a déjà produit au moins quatre filles d'or qui doivent se trouver au niveau de Tanzanie. Donc c'est un manque à gagner pour le coin.
D'après un observateur, un fût, ce n'est pas moins de 200 kilos. Kalemi, Expériment Bamoubi, École Économie.
Trois fûts d'or produits illicitement à Niuzhou, déjà ont traversé vers le Rwanda, et quatre autres fûts d'or à Tanzanie. Ça coupe le souffle, c'est beaucoup d'argent.
Le Congo, si riche. Mais nous sommes si malheureux, parce que des fois, c'est la gérance avec légèreté. Comment des choses pareilles peuvent se dilapider, se saupoudrer, alors qu'on est à la recherche de moyens pour payer les fonctionnaires, les enseignants, redresser le secteur de la santé, de l'agriculture, mais l'argent est en train de se dilapider.
Et nous sommes en fin de semaine, je rappelle que l'once d'or aujourd'hui coûte 1 320 $, une once.
Vous imaginez.
Et des fûts, à peu près 7, hein, qui se volatilisent comme ça.
Qui est-ce que nous pouvons condamner ? On retombe sur le dos du gouvernement, alors qu'on est dans le besoin de tous ces moyens-là.
Voilà, et puisque, honorable, vous êtes le secrétaire général de l'Union nationale des paysans congolais, on ne peut pas terminer cette émission sans dire un mot sur ce que vous meniez comme lutte. Votre lutte, c'est que le gouvernement congolais augmente le budget alloué à l'agriculture. On est en pleine session budgétaire. Qu'est-ce que vous comptez faire au cours de cette nouvelle session?
Antoine, pendant ces temps ici, nous sommes en train d'interpeller et les députés et le bureau de l'Assemblée et le gouvernement tout entier à ce que nous tous nous prenions conscience que nous devons donner à manger au peuple congolais. Donner à manger à 60 millions ou 75 millions de Congolais que nous sommes. Et c'est pas une moindre chose. Ça demande des sacrifices qu'il faut, et ce sacrifice-là, ce n'est rien d'autre que de pouvoir consacrer ne fût-ce que 10%, si pas 10%, mais ne fût-ce que pour ce budget 5% qu'il faut accorder au budget de l'agriculture.
Le budget de l'année passée, donc de l'année en cours, c'était quoi la taille du budget alloué à l'agriculture?
Vous savez que ça fait même, c'est honteux de pouvoir citer ça.
C'était combien?
Parce que nous sommes sur une chaîne qui est à vocation internationale.
C'est pourquoi il faut apporter l'information à la population dans le plus profond de la RDC.
L'année passée, le budget de l'agriculture n'était qu'à 1%, virgule quelque chose
seulement.
Seulement,
alors que le chef d'État a souscrit à accorder, ça fait 3-4 ans déjà que le chef d'État a souscrit d'accorder 10% du budget national à l'agriculture.
Il
resté un chant et un slogan, peut-être.
Ça reste un chant au Congo, mais ouais. Dans d'autres pays, on a déjà pris conscience. L'Afrique du Sud est déjà à 10%, la Zambie, la Tanzanie, c'est 8%, il y a le Cameroun déjà à 10%, Ghana, Nigeria, ils sont déjà à 10%. Mais nous restons à un point, quelque chose de si déplorable, c'est malheureux.
Qu'est-ce que vous allez faire?
Le budget, bientôt, il arrive au Parlement, par le Parlement, dont, disons, l'hémicycle est occupé aujourd'hui pour les travaux de concertation nationale. Heureusement que les travaux s'arrêtent aujourd'hui. Le budget, bientôt, il va vous être déposé, vous, députés, représentants du peuple, à l'hémicycle. Qu'est-ce que vous avez déjà envisagé, peut-être, dans les interventions que vous aurez?
Nous sommes en train de nous préparer conséquemment, mais aujourd'hui, là, parce que ça ne nous est pas encore parvenu, nous sommes en train d'interpeller le gouvernement à prendre conscience de cela. C'est sérieux. C'est pas... Tous tous les secteurs nous concernent, oui. Mais tous les secteurs ne concernent pas tous les Congolais du coup. Mais les secteurs primordiaux qui concernent chacun des Congolais et chacun d'enfants à partir d'un an jusqu'à 100 ans, c'est le secteur agricole. C'est là que nous sommes en train de dire, en tout cas, quoi qu'il en soit, que le gouvernement prenne conscience avant de déposer le budget, qu'il faut qu'il songe à cela. Cette année, allons même à 5%. Avant 2016, que ce gouvernement soit plébiscité meilleur gouvernement du Congo depuis 1960, parce qu'on va atteindre les 10% qui ont été réclamés ou même acceptés par tous les chefs d'État eux-mêmes à Maputo, tel que c'était déclaré.
Honorable Atsigo Lofimbo, merci d'avoir répondu à notre invitation, mais surtout à nos questions et pour les analyses au cours de cette rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi.
Je vous dis aussi merci.
Ok, nous vous souhaitons
et bon. Je salue aussi tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Et voilà, nous rappelons que vous êtes député élu de Kailo, c'est au Maniema.
Les défenseurs des paysans congolais.
Merci, merci à vous Franklin Berry Luchaka de nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci à vous chers auditeurs. Cette émission, vous la retrouvez toute la semaine sur www.radiookapi.net. Elle a été réalisée à la technique par Jean-Claude Nziala. Daniel Tambizoni prend rendez-vous avec vous pour la semaine prochaine. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous.
Bon week-end.